Au cours des voyages que j'ai fait l'an passé, je me suis aperçu que dans toutes les sociétés, même à majorité musulmane, il y a beaucoup d'informations, mais il y a peu de réflexion. C'est-à-dire que la jeune génération est super informée, mais elle a des difficultés à organiser sa pensée. Or, je pense, comme disait le Saint-Père tout récemment, le silence, la réflexion sont des priorités. Je cite toujours cette pensée de Pascal, qui à mon avis est prophétique, il écrivait « Le grand malheur des hommes, c'est qu'ils ne savent pas être en repos dans une chambre. Au milieu du bruit, de l'agitation du monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de temps en temps de nous retirer dans notre chambre, en silence, et d'organiser notre pensée à partir des informations que nous avons reçues. »
La dimension spirituelle, c'est ce qui nous unit au-delà de nos différences, c'est ce qui nous unit, chrétiens et musulmans, dans une société sécularisée, déchristianisée. C'est-à-dire en quelque sorte, Éminence, que le dialogue aujourd'hui doit se concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise dans le contexte actuel.
D'abord, il faut toujours se souvenir que le dialogue interreligieux, c'est une activité essentiellement religieuse. Ce n'est pas des religions qui dialoguent, ce sont des croyants qui se rencontrent, même s'ils sont de cultures et de traditions différentes. Donc, loin de justifier les barrières, les divisions, elles doivent pousser leurs fidèles à surmonter les barrières de l'incompréhension et des préjugés en favorisant l'ouverture aux autres dans un respect réciproque.
Est-ce qu'on peut également dialoguer sur ce qui nous divise ?
Ça dépend. Avec les musulmans, c'est un peu difficile pour des raisons qui sont un peu compliquées que je ne peux pas dire ici. Nous avons des difficultés, en particulier avec l'université Al-Azhar du Caire en ce moment. Et je crois qu'il faut surtout privilégier les relations humaines, les contacts. Parce que le dialogue interreligieux repose d'abord sur l'estime mutuelle qui commence par le respect et qui va finir par l'amitié. Pour le moment, ce qui est important, c'est l'amitié, c'est bâtir l'amitié.
La dimension spirituelle, c'est ce qui nous unit dans un monde sécularisé, mais vous allez vous-même tenir ces jours prochains une conférence sur le thème « Faut-il avoir peur de l'islam ?» Pourquoi cette question revient-elle aussi souvent et y a-t-il une réponse ?
Pourquoi les musulmans font peur ? D'abord parce qu'on ne les connaît pas. Donc on vit un peu à partir des clichés qui sont répandus dans les masses médias. Il faut dire que aussi l'islam, par nature, est une réalité très complexe. C'est à la fois une civilisation, une religion, un système politique. Donc elle ne correspond pas à nos schèmes mentaux et à la manière dont nous nous comportons dans la vie en société. Et puis on ne peut pas nier non plus que le terrorisme à base pour des motifs religieux, tout cela fait peur. Alors moi je dis, on ne doit pas avoir peur de l'islam dans la mesure où nous sommes des chrétiens convaincus, informés et formés. Mais si nous sommes des chrétiens tièdes, alors oui, là on peut avoir des craintes. Mais je crois que cette crainte est salutaire dans le sens où elle est un appel à un christianisme beaucoup plus raisonné, qui sait vraiment pourquoi il croit et en qui il croit. Maintenant, nous sommes obligés de présenter le christianisme dans toute sa rigueur. On ne peut pas se perdre dans le secondaire.
Cette question, d'ailleurs, risque d'être relancée à l'occasion du 10e anniversaire de l'attentat du 11 septembre, qui va certainement relancer les craintes.
Le pape, d'ailleurs, a condamné d'une manière extrêmement vigoureuse le terrorisme motivé par des considérations religieuses. On ne peut pas tuer au nom de Dieu.
Le ramadan s'achève et dans 2 mois, au mois d'octobre, des représentants des principales religions du monde vont se retrouver à Assise 25 ans après la rencontre historique voulue par Jean-Paul II. Est-ce que vous pourriez nous dire quel sera l'esprit de cette nouvelle rencontre d'Assise 25 ans après la rencontre historique ?
Je crois d'abord que ce sera une occasion, d'après ce que le pape désire, de réfléchir dans le silence, dans la prière, évidemment non commune, chacun selon sa tradition, voir un peu ce que nous, comme croyants, nous pouvons apporter à la société. Et puis répéter toujours que la paix est possible. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Nous avons été créés par amour pour le bonheur, pour la vie. Il s'agit de faire de notre société un lieu où il est bon de vivre ensemble, d'être heureux ensemble. On ne peut pas être heureux les uns sans les autres et certainement pas les uns contre les autres.
Cette journée sera une commémoration. Est-ce que vous pensez que la question de la liberté religieuse sera abordée ? On ne peut pas oublier que des chrétiens souffrent dans le monde. Vous évoquiez l'Égypte, on pense aussi à ce qui se passe au Pakistan.
Je pense dans les interventions, oui, dans le pape aussi, je pense, en parlera. Bien sûr, la liberté religieuse, c'est un peu le test. Quand la liberté religieuse est menacée, en réalité, ce sont toutes les autres libertés qui sont menacées. Il est inconcevable qu'en 2011, il y a encore des croyants qui, parce qu'ils sont croyants, sont l'objet de discrimination et même d'exécution. Essayons, là où nous sommes, de découvrir ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien de la société. Et je crois que En particulier, le témoignage d'assemblées et de prières est très important. Il faut penser que chaque fin de semaine, dans le monde entier, vous avez des millions de musulmans, de chrétiens, de juifs qui se rassemblent pour la prière dans leurs synagogues, dans leurs églises, dans leurs temples. C'est un patrimoine spirituel qui est à la disposition de l'humanité tout entière. Et je crois qu'il faut qu'on nous voit prier et qu'on n'ait pas peur de se montrer, parce que sans Dieu, évidemment, le monde est un monde à dimension humaine et qui est marqué par la finitude, par la mort, finalement.